Bonsoir. Merci d'être présent ce soir pour la présentation du livre de Ludovic Potier, Ivoire brisé. Je voudrais dire d'abord quelques petits mots sur l'auteur. Donc, Ludovic est enseignant, poète, écrivain et plus généralement grand spécialiste du flamenco. Il anime notamment un site ou un blog qui s'appelle Falsetta et également une émission de radio sur Radio Campus le lundi soir, toutes les semaines.
Ouais, bonsoir, qui s'appelle Falsetta aussi d'ailleurs, l'émission.
Voilà.
C'est sur le 88.1. Et on peut aussi l'écouter en streaming et en podcast.
Alors, je remercie Ludovic de m'avoir demandé d'être le modérateur ou l'accélérateur, je ne sais pas, de cette rencontre. Alors, je dirais pour commencer que le livre « Ivoire brisé » peut se lire de plusieurs façons. Alors, je dirais donc une première façon, on peut le lire comme un livre de poésie. Et une deuxième façon, on peut le lire comme un texte donc en hommage ou en référence au flamenco. Alors, la première façon, un livre de poésie, donc on va s'intéresser au rythme, aux images, à l'architecture de l'ensemble. Et puis une deuxième façon, donc on va s'intéresser donc au flamenco. Mais là, je dirais qu'il faut avoir une certaine culture du flamenco. Et si on n'a pas cette culture, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments qui peuvent nous échapper. Alors, il y a une troisième façon qui peut être lire comme un livre de poésie animé par, disons, le souffle du flamenco. Voilà, donc je pense qu'en fait, c'est cette troisième façon qu'il faut adopter, cette troisième manière de lire le livre. D'ailleurs, donc, il est sous-titré « Poésie et flamenco ».
Oui, c'est vrai. Non, mais simplement, c'est bien que tu dises ça, puisque en flamenco, en tout cas sur scène, il y a trois éléments. Hein, il y a le cante, donc le chant, le toque, la guitare, et le baile, la danse. Le cante, c'est ce qu'on appelle, on va dire, la matrice, en fait. Hein. La guitare arrive ensuite, puisqu'au départ, dans l'histoire du chant, les chants sont plutôt à palo seco, c'est-à-dire sans accompagnement de guitare, l'accompagnement se faisant simplement en tapant avec ce qu'on appelle les nudillos sur la table, ou simplement en entrechoquant des vers, enfin faisant un rythme, un compas, qu'on appelle un compas, un rythme. Et puis la guitare arrive ensuite, c'est une guitare qui est, comme ce sont des... Le canté vient du peuple, en fait, donc c'est de basse extraction, on va dire. Donc c'est fait sur un bois, le cyprès ou le palo santo, et ce sont des bois sur lesquels les doigts glissent plus vite. Donc ça a forcément amené une façon de jouer différente de la guitare classique, par exemple. Et donc ça a aussi influencé l'instrument, la guitare flamenca, qui est un instrument à part entière, a aussi influencé sur l'histoire du flamenco. Et puis le baile, qui vient ensuite, en fait, c'est certainement le des trois, ce qui est le plus connu, le plus couru, on va dire. Mais le baile n'intervient qu'ensuite. Et effectivement, si on trouve des spectacles où le chant est patras, c'est-à-dire par derrière et au service du baile, au service de la danse, c'est quand même le chant, le canté qui est primordial. Voilà. Donc c'est bien, voilà, trois éléments. Ben voilà. Alors, on rajoute toujours un quatrième élément, c'est le public, puisqu'en fait, il y a une interaction extrêmement importante entre les gens qui sont sur scène, enfin pas forcément sur scène, en face du public en tout cas, sur des scènes qui sont très très simples, qu'on appelle soit un tablao, c'est-à-dire c'est simplement sur des tables, voilà, enfin sur quelque chose qui est mis pratiquement même le sol. C'est simplement là pour qu'on entende les pas du bailaor ou de la bailaora, du danseur ou de la danseuse. Mais il y a une interaction entre le public et le chanteur, puisque le public peut se permettre d'intervenir avec ce qu'on appelle les jaleos, c'est-à-dire en fait des interjections qui viennent du public, qui sont jetées comme ça, au letou, à ça, Thomas, c'est-à-dire en fait on intervient par rapport au chanteur, par rapport à l'artiste, pour lui dire que, ben, pour l'encourager, pour l'animer, et aussi pour dire que l'on sait, parce que très souvent dans le flamenco, ceux qui sont dans la salle sont eux aussi des connaisseurs, hein, ce qu'on appelle les cabales, mais pas toujours, hein. Après, plus le spectacle va être grand, plus le spectacle va être, on va dire, commercial, évidemment, ça va se jouer dans des grandes salles, devant des publics plus profanes, mais il y a quand même toujours une interaction très importante entre le public et les artistes qui sont sur scène. D'où, et j'enchaîne, l'importance que je donne à la lecture. C'est pour ça que tout à l'heure je ferai quelques lectures, puisqu'en fait, à travers la lecture, je donne aussi ce regard-là, c'est-à-dire le fait que c'est une poésie à entendre. Ça, tu ne l'as peut-être pas dit, mais j'ai aussi écrit ça en pensant qu'un jour, enfin, quand le livre sortirait, eh bien, on allait écouter. Voilà, voilà. Bon, voilà, ça ne se rapproche pas de la poésie sonore, mais en tout cas, moi, dans mon esprit, c'était effectivement fait pour être entendu, lu et entendu.
Oui, d'ailleurs, bon, on en parlera tout à l'heure peut-être. Il y a, effectivement, quand on regarde les poèmes de près, il y a un rythme très particulier, d'abord dans la présentation typographique, et puis dans le découpage, on pourrait dire, hein, le découpage des vers, hein, il y a un rythme particulier. Alors, avant d'entrer peut-être dans le détail, je voudrais... Moi, je ne suis pas spécialiste du tout du flamenco, bien qu'étant espagnol. C'est une tare, n'est-ce pas? Mais bon, c'est comme ça.
D'être espagnol, non. Enfin,
non, pas d'être espagnol. C'est pas une tare.
Au contraire.
Bon, alors, je suis vaguement peut-être un peu spécialiste de poésie, quand même. Moi, je voudrais faire une... Comment dire? J'aime bien faire des symétries, établir des symétries, des ponts. Je voudrais lire simplement un petit passage de Federico García Lorca, qui est bien sûr un des théoriciens du flamenco, qui s'est beaucoup intéressé au flamenco, qui a recueilli beaucoup de textes. Un petit passage d'un texte qui s'appelle « Jeu et théorie du duende ». Ce pouvoir mystérieux que tout le monde ressent et qu'aucun philosophe n'explique est, en somme, l'esprit de la terre. Ce même duende qui consumait le cœur de Nietzsche, qui le recherchait dans ses formes extérieures sur le pont du Rialto ou dans la musique de Bizet, sans le trouver et sans savoir que le duende qu'il poursuivait était passé des mystères grecs aux danseuses de Cadix ou aux cris dionysiaques de la séguidille égorgée de Silverio. Donc, voilà ce premier extrait. Alors, peut-être tu as quelque chose à dire. Je vais continuer après avec un autre extrait de notre auteur, mais sur le duende.
Alors d'abord sur Lorca. Lorca, c'est vrai que tu dis théoricien, mais il est allé plus loin que la théorie, puisque c'est lui qui a organisé avec Manuel de Falla et d'autres. Mais c'est surtout ces deux noms-là qu'on a retenu, Manuel de Falla, donc compositeur classique, en 1922, le concours de Grenade. Et de là a découlé un certain renouveau du flamenco, et notamment la génération del 27, la génération de 1927, a été extrêmement attachée à retrouver toutes ses racines populaires. Et on retrouve tout ça effectivement dans Poema del Cantejondo, voilà, les viñetas flamencas, etc. Donc effectivement, Lorca accompagne les flamencos depuis très longtemps, et c'est un compagnon indissociable du cante flamenco, sans aucun doute. Voilà. Alors ce texte, hein, « Jeu et théorie du duende », est une conférence qui est extrêmement importante, effectivement, lorsque on s'intéresse au flamenco de façon un peu plus, intellectuelle, en tout cas, lorsqu'on veut aller un petit peu plus profond, dans l'étude du flamenco. Et tu parlais du duende, donc oui, alors le duende, c'est quoi? C'est, on pourrait le traduire par le djinn, les lards. C'est quelque chose qui, à un moment donné, fait que au-delà de, du savoir, au-delà de l'apprentissage, on va aller chercher une espèce de, une sorte de, d'extase, une sorte de transe qui va faire que eh bien, tout bascule. Et on dit que les, nuits de, les grandes nuits de Kante, les gitans disent qu'ils se déchirent la chemise parce que tel cantaor est allé au paroxysme. Voilà, on pourrait parler de paroxysme, d'acmé, quelque chose qui fait qu'il y a une espèce de sublimation, comme si le cantaor sortait hors de lui, en fait, et allait chercher cet indicible qui fait que ben, on a un frisson, voilà, quelque chose qui fait que on tombe dedans, ce qui m'est arrivé, et puis on n'en ressort plus. Voilà.
Alors, moi, j'ai lu donc ce petit passage de Lorca, parce que je voulais le mettre en rapport avec ce que Nietzsche appelle la vision dionysiaque du monde. Donc, Nietzsche a élaboré donc, une théorie, notamment dans son livre sur la naissance de la tragédie, dans laquelle il voit qu'il y a une tension permanente entre l'apollinien, donc Apollon, et le dionysiaque, donc le dieu Dionysos. Donc ce qui est du domaine de l'apollinien, c'est le solaire, la lumière, la forme, la beauté. Ce qui est du domaine du dionysiaque, eh bien c'est au contraire, c'est tout le tellurique, le terrestre, éventuellement le grotesque aussi. Le côté sombre et l'ivresse. Alors, et du côté d'Apollon, c'est le rêve. Le rêve et Dionysos, l'ivresse.
Oui, c'est ce que Lorca, dans le jeu et théorie d'Idoné, dit, parle de l'angel. Donc, l'angel serait plutôt du côté d'Apollon et le Duende serait plutôt, effectivement, du côté dionysiaque. Hein.
Voilà. Et alors, Dionysos rajoute, Dionysos, Nietzsche rajoute à propos du dionysiaque quelque chose d'intéressant. Donc, tandis que l'ivresse est le jeu de la nature avec l'homme, l'œuvre de l'artiste dionysiaque est jeu avec l'ivresse. Cet état, si l'on n'en a pas soi-même fait l'expérience, ne se laisse concevoir que par analogie. Il s'agit de quelque chose de similaire au fait de rêver et de ressentir vaguement que ce rêve est rêve. Ainsi, le dévot de Dionysos doit-il tout à la fois être sous l'emprise de l'ivresse et reposer en lui-même tel un veilleur au guet. Alors, déjà, ça, c'est intéressant, c'est être sous l'emprise de l'ivresse et en même temps être à l'intérieur de soi. Mmh. Hein. Le type de l'artiste dionysiaque ne consiste pas dans l'alternance entre lucidité et ivresse, mais dans leur simultanéité. Donc, il me semblait, malgré mon ignorance du flamenco, que c'était peut-être là quelque chose qui avait un rapport avec le duende, et ce qui fait la différence entre un artiste qui a du talent et puis celui qui a le duende, qui est habité par le duende et qui en même temps habite à l'intérieur.
Oui, surtout que le talent, pardon, peut effectivement musicalement, ça peut se concevoir. Hein, dire une belle voix, des facultés, une connaissance de ce qu'est le chant. Mais il y a quelque chose aussi qui est de l'ordre de l'intime, de l'ordre du vécu, quelque chose qui fait que ce point d'équilibre justement entre l'ivresse et la clairvoyance, eh bien c'est ce point-là que veut atteindre certainement le chant le plus proche du duende. Alors, quand est-ce que ça se passe? Où ça se passe? Ben, plutôt dans des endroits un peu enfumés et plutôt vers 4 heures du matin que sous des éclairages au néon et à 7 heures du soir, à peu près à l'heure qu'il est maintenant. Mais il n'y a pas de règle non plus tellement écrite par rapport à ça. Hein. C'est pas obligé non plus que, parce que l'ivresse nous atteint et qu'il est 5 heures du matin, que le duende va surgir. C'est une interaction, comme je disais tout à l'heure, entre les différents éléments qui sont là pour donner à voir et à entendre quelque chose. Effectivement, tu as raison, tu as parlé tout à l'heure de l'ordre du grotesque. Quelqu'un qui ne connaît pas le flamenco, qui observe un cantaor, À un moment donné, je parle de galet dans une bouche sans muscles. C'est pas très très beau hein, quand on le flamenco, si on le prend comme ça, quand on le regarde. Des fois, dans le baile, vraiment, des vieilles abuelas gitanas, des vieilles grand-mères gitanes, lorsqu'elles s'agitent, qu'elles tremblent, comme je dis, por ayeos, il y a quelque chose qui est de l'ordre, effectivement, du grotesque, de quelque chose qui est... On peut en rire. C'est assez drôle. Beaucoup de gens qui ne connaissent pas le flamenco, lorsqu'ils en entendent pour la première fois, s'esclaffent. Parce qu'ils disent, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est complètement... Alors, c'est hors des canons occidentaux de la musique telle qu'on peut l'écouter aujourd'hui, telle qu'on peut l'entendre la plupart du temps aujourd'hui. Mais au-delà de ça, on peut même... j'ai un ami qui dit, ou tu chantes faux, ou tu chantes flamenco. Mais voilà. Mais on n'est plus du tout sur quelque chose qui est de l'ordre, effectivement, de la pure musicalité, hein, je disais tout à l'heure, de la pure faculté. Ça va au-delà, il faut aller chercher vraiment à l'intérieur de soi pour rendre ce point, cette névralgie là, quelque chose qui fait que on n'est plus maître de soi-même, mais en même temps on maîtrise les canons et les codes. Il faut très bien maîtriser les canons et les codes pour arriver à ce point-là. Et c'est pas du tout, on n'est pas du tout non plus dans le domaine de l'inspiration pure, on n'est pas du tout non plus dans le domaine de l'improvisation. Au contraire, il faut des cadres assez établis, assez fermes, pardon, assez solides. Un compas, c'est-à-dire que c'est un rythme et on ne peut pas sortir du compas. Un cantor ne sort pas du compas. Il ne peut pas être acompassado, il ne peut pas être en dehors du compas, il ne peut pas être en dehors du rythme. Mais à l'intérieur de ce rythme, de cette espèce de cage, ben c'est comme s'il essayait d'en desserrer les barreaux, mais jamais il ne se projette au-delà du barreau. Il les desserre, mais il dit simplement ben, « regardez-moi à l'intérieur de cette cage-là, à l'intérieur de ce carcan, j'arrive à en faire sortir quelque chose qui serait de l'ordre voilà, de l'invisible.
Mmh. » Alors. Oui, alors justement, bon, on ne va pas parler de Dionysos tout le temps, mais il y a cette importance du corps hein, dans le flamenco, oui. Et dans ton livre également. Donc, on pourrait revenir maintenant plus au livre. Entrer plus. Alors, une question tout d'abord. Est-ce que tu as imaginé une structure particulière pour ce livre?
Non, pas vraiment. Ça, c'est avec l'éditeur, donc Atelier B, Bruno Dohan, et puis Jacques Maigne aussi, hein, qui est un grand journaliste et qui est un spécialiste du Cante. Et voilà, on s'est concerté, on a trouvé cette façon de présenter le livre et cette façon d'agencer les textes. Mais on pourrait dire qu'il y a des textes qui sont plutôt sur le côté, on va dire, c'est des choses que j'ai vécues et que je... Je mets en voix en fait, hein, puisque je disais que c'était important de les entendre. Et ensuite, il y a quelque chose d'un petit peu plus, un peu plus abstrait, un peu plus proche d'une poésie plus symbolique, plus voilà.
Alors oui, comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs manières de lire ce livre ou ce poème, parce qu'en fait, c'est un long poème.
Voilà, hein,
c'est un long poème. Mmh. Mais alors, on peut le lire de plusieurs façons, donc. C'est-à-dire, je me répète, mais parce que véritablement, en fait, il a une structure éclatée, en brisure. Et c'est pour ça que je parlais d'architecture d'ensemble, parce que le premier poème a, à mon avis, une grande importance. Mm-hmm. Le premier poème, donc, s'appelle « Porcelaine d'essence ». Alors, quand je lis « Porcelaine d'essence », moi, puis quand on a lu l'ensemble, moi, je fais référence, enfin, tout de suite, je pense à Rimbaud, pour qui la poésie doit être lue littéralement et dans tous les sens. Et dans tous les sens, à savoir l'essence, la signification, mais aussi l'essence du corps, hein, la vue, le toucher, etc. Donc ça me paraît quelque chose d'abord très important. Non, d'autre part, la porcelaine, c'est une céramique fine. Mmh. Et la céramique, comme vous le savez, c'est le premier art du feu. Donc voilà un poème qui commence par quelque chose qui fait une référence à l'art du feu, au premier art du feu. Donc on est encore dans le dionysiaque aussi, là-dedans. Dans quelque chose qui va, qui va prendre feu, là. Hein. Alors, je pense qu'il y a un rapport aussi avec le flamenco, là. Et alors, la porcelaine d'essence, une porcelaine, c'est quelque chose de fragile, qui peut se briser, qui peut se briser, donc y voir briser. Mm-hmm. Là aussi, on a déjà le thème de la brisure qu'on va retrouver tout au long du texte. Hein, le thème de la brisure, de la cassure, le thème du fragment. Tout à l'heure, je disais que les poèmes sont écrits en un rythme un peu particulier. Mais effectivement, on a ici l'impression d'être en face de fragments, de quelque chose qui aurait été cassé et qu'éventuellement, on pourrait recoller. Mais alors, on peut suivre les fragments avec des fils conducteurs. Ces fils conducteurs, ce sont des mots, quelques mots ou quelques thèmes. Donc le thème de la brisure, qui lui-même un fil conducteur, hein, qui peut servir à relier les fragments cassés. Il y a ensuite des champs lexicaux, hein, tout ce qui relève, tous les champs lexicaux du corps. Alors là, toutes les parties du corps y passent. Hein. Il y a même un poème où on a pratiquement tout le corps y passe de bas en haut, hein, pratiquement, parce que ça suit l'évocation du corps, les mots du corps suivent en fait la montée du cant.
Oui, mais tu as raison. Alors, déjà par rapport à ivoire brisé, donc qui se traduirait en espagnol marfil quebrao, et ça fait référence à une copla très célèbre qui commence par de oro y marfil, d'or et de marbre. Et cette copla très célèbre est une copla d'une granaina. Et granaina, c'est un style de fandango de Grenade. Grenade, Lorca, donc on revient un petit peu à ce dont on parlait tout à l'heure, effectivement, il y a ça. Et puis par rapport au corps, je crois que c'est très important cette vision que certains pourraient trouver grotesque. Je crois que c'est observable, ça, dans une nuit de cante, le cantaor est assis sur sa chaise. Alors déjà, souvent, ça étonne beaucoup de gens. Mais pourquoi il ne se lève pas? Pourquoi? Mais il chanterait beaucoup mieux s'il était debout. En fait, il fait un effort. En fait, le fait qu'il soit assis participe à cet effort dont je parlais tout à l'heure, qui va lui permettre à un moment donné de sortir. Et il le vit avec son corps. Il essaie de le sortir. Alors il y a les mains qui le montrent, ça. Mais il y a aussi les pieds, il y a aussi la bouche, il y a les yeux. Il y a effectivement un mettre son corps en jeu, là, au milieu, ça, on a l'impression qu'il ne bouge pas, mais tout est en mouvement, en accélération à l'intérieur de ce propre corps. Et souvent aussi, un canté qui va atteindre le doigté, ça dure pas très longtemps, parce qu'il y a vraiment un don physique, je pense, de la part du cantaor. Et ça, c'est pas toujours évident non plus à appréhender, parce que un, deux, trois cantés, et souvent, les cantaores ressortent brisés de ça, effectivement. Ils en ressortent complètement lessivés, complètement laminés. C'est une expérience physique assez étrange. Et pour l'avoir un peu vécu, puisque je chante un peu, et c'est un vrai plaisir, une vraie jouissance de jouer avec son corps pour chanter. Voilà, je n'arrive pas à le dire autrement, mais il y a effectivement la notion de corps est extrêmement importante.
Et je sens j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'équilibre que l'on sent dans ton écriture et qui traduit peut-être quelque chose qui est dans le flamenco, une sorte d'équilibre permanent entre la fragilité et la pesanteur. Hein, cette masque, ce corps qui est assis sur la chaise, et puis ce point d'équilibre où dans le flamenco, effectivement, on a l'impression que tout le temps, il y a quelque chose qui va casser. Ou...
Sur l'ordre de la tension, de la tension, la tension. Voilà. Mais de l'attention aussi. Alors on est dans la polysémie complète, parce que ça, c'est très important aussi, je crois, la polysémie. En tout cas, dans ce que j'ai écrit, j'ai essayé d'en tirer le maximum par rapport à ça. Si tu le veux bien, je peux peut-être le lire, ce texte.
Oui, vas-y.
Ça vous dirait?
Tout à fait.
Bah alors, si ça vous dit, moi aussi. Donc, c'est celui qui ouvre le recueil, qui s'appelle « Porcelaine d'essence ». Il était arrivé à Santa Ana devant la cerveceria Alemana. Le nom des anciennes rues était décroché, il y avait l'odeur de loupé sur le cuir de la bouique, le sang de Linares sur la poignée et au bar chicoté de l'autre côté de la porte, le temps comptait la vie et la mort dans la vulve de l'horloge Coppel. La Venencia ressemblait à une fumerie de fleurs sèches où ses lèvres se refermaient sur le goutte-à-goutte de la manzanilla fina. La bacchélite du téléphone venait le chercher. Il lui fallait manger dans la main de nacre des señoritos avec cette douleur, une saignée d'histoire dans la comète des barricades flamencas qui se lisait dans la saveur perdue de son regard. Ces juergas de riches, c'était la bagarre d'une vie en piste où il était sans un fil d'or ou d'argent. Gabrieles, Villarosa, il savait que la porcelaine d'essence se mue en fibre cuando se canta por cañas, ce lait de poitrine, lancé dans les pas de celui qui est venu de loin jusqu'ici. Aujourd'hui, sur cette photo de Pepe Lamarca, Raphaël a trois ridelles qui arruguent le parchemin tavelé apparu dans l'ourlet de sa peau. Il est là, dans son manteau de mythe, il attend assis sous l'enseigne Burger King, il soupire de son ventre vide, monte à la palpitation qui lui rappelle qu'être cantaor du parfait frisson est parfois la chose la plus décisive au monde. Raphaël Romero est mort le 3 janvier 1991. Se fue para el otro mundo en la más triste soledad.
Voilà. Là, c'est un poème qui, à mon avis, ouvre bien le, donne bien le tour de l'ensemble.
Oui, alors, en fait, ça fait référence à un cantor qui s'appelait Raphaël Romero, dit El Gallina. Et El Gallina est un cantor qui a eu du succès dans les années 50-60, et en fait, qui est mort, hein, donc en 1991, complètement abandonné. Il habitait Madrid, et en fait, c'est un photographe qui s'appelait Pepe Lamarca, qu'il a retrouvé et qui lui avait donné rendez-vous dans un Burger King. Il y a une photo célèbre de lui dans son manteau mité, voilà, effectivement. Et voilà, il résume assez bien aussi l'histoire de beaucoup de ces flamencos qui ont donné toute leur vie au flamenco et qui font partie de ces gens qui sont de véritables figures tutélaires, mais ils n'ont pas eu un succès tel qu'on pourrait l'entendre aujourd'hui à travers des figures du flamenco contemporain, parce que ça date d'une époque où ce cante flamenco était considéré à la fois comme un vecteur un peu touristique, hein, voilà, les poids, les ferias, les cuevas de Grenade, voilà, ce côté un peu folklorique. Et puis en même temps, ça amène toute une histoire, tout un peuple. Et Raphaël Romero, pour moi, est un de ces hommes importants. Voilà, quand je regarde les photos de Raphaël Romero, voilà, j'ai un peu des larmes qui montent aux yeux parce que je me dis que j'aurais bien aimé le connaître, cet homme, et que cette photo, elle est là, et que j'avais envie d'en parler, de Raphaël Romero. Donc je l'imagine dans Madrid quand il est monté et qu'il a fallu gagner sa vie en allant, comme je dis, dans les juergas, dans les fiestas qu'organisaient les señoritos, c'est-à-dire ceux qui avaient le parné, la monnaie, l'argent. Et lui, ben, il est obligé d'attendre que le téléphone sonne pour aller se chercher la vie, buscarse la vida. Et voilà, il a vécu tout simplement le canté comme ça, mais c'était indissociable de son être, hein, à Raphaël Romero. Donc c'était bien aussi de commencer par ça, parce que c'était un véritable hommage à cette personne qui me semble un peu emblématique de la vie des flamencos, qui se sont, comme je disais, cherché la vie tout au long de leur existence, et puis qui tombe dans l'oubli, mais jamais non plus tout à fait, parce que la famille flamenca, c'est une grande famille. Il y a toujours quelqu'un qui va payer un petit café, payer un petit coup à boire, qui va donner quelques cigarettes, qui va prendre un petit peu ce vieux monsieur sous sa protection. Voilà, donc c'est ce que faisait Pepe Lamarca en le retrouvant sous l'enseigne Burger King.
Bon, vous avez compris que Ludovic, si on le laisse, il va parler du flamenco tout le temps. Donc on est quand même là pour parler de son texte, de son, hein,
aussi,
de ton texte, hein. Aussi. Donc... Alors, vous avez remarqué que dans ce poème, tout de suite, on voit des choses qui caractérisent ton écriture. Et notamment, alors, par exemple, le fait qu'on trouve des mots en espagnol. Alors, ces mots en espagnol, enfin, je ne sais pas comment tu le ressens, mais moi, je ne ressens pas ça comme une sorte de couleur locale. Hein, ça pourrait être une sorte de couleur locale. Mais non, c'est plutôt des mots qui viennent ici contribuer à créer une ambiance qui ouvre sur l'imaginaire, parce que ben, on ne sait pas toujours à quoi ça renvoie. Non, mais c'est vrai, ça...
Oui.
D'abord, si on ne connaît pas l'espagnol, bon, ce qui n'est pas mon cas, mais quelquefois, ça renvoie à des choses très particulières du monde du flamenco qu'on ne connaît pas forcément. Donc ça contribue à donner un rythme et une atmosphère à l'écriture. Et puis alors, on parlait tout à l'heure d'oralité, écriture. Alors, j'étais amusé parce que quand tu lis, tu déformes le texte.
C'est vrai.
Donc tu actualises le texte en fonction de l'ambiance, etc. Donc c'est une sorte d'improvisation.
Mais toujours dans le cadre, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Toujours dans un certain rythme, un certain compas. Effectivement, tu as raison. Oui, c'est vrai. Alors il y a aussi des néologismes du coup. Il y a à la fois je dis des mots en espagnol, mais des fois il y a des néologismes. Par exemple, qui arrugue, c'est un mot qui n'existe pas. Arruguer, ça n'existe pas. Oui. Je l'ai conjugué, mais ça n'existe pas.
Alors juste.
Ça vient de arrugas, en fait, c'est les rides, en fait.
Ouais, justement, alors, donc...
Mais parce que la sonorité, même, voilà, voilà...
Oui, parce qu'en français, quel mot pourrait remplacer le verbe arrugar, dans le sens que tu lui donnais?
Qui ride, mais sauf que je trouvais que ride, c'était pas assez long, c'était pas assez profond, c'était pas assez puissant, quoi. Qui arrugue, c'est beaucoup plus... Et voilà, on imagine un sillon, pratiquement, un sillon de vie.
Voilà, c'est ça, oui, parce que... Moi, j'avais tout à fait noté ce thème, l'idée du pli, du tissu. Hein, ça renvoie au tissu, pas seulement à la peau, au tissu, puisque ici, le texte dit qu'il y a à Rugue le parchemin tavelé apparu dans l'ourlet de sa peau. Donc le lien entre le tissu, l'ourlet, le parchemin... Et donc, ça renvoie à l'écriture, ce rapport entre le corps et l'écriture, qui est un des thèmes essentiels aussi de ta poésie, hein, et qui renvoie à la trace aussi. La trace, donc l'écriture, mais aussi la trace plus généralement, puisque la trace d'avant l'écriture, la trace sur la terre, la trace sur le corps, de là, la présence très insistante de l'incision. Sur le corps, hein, y a plusieurs endroits de la coupure, bien sûr, de l'incision.
Il y a le parchemin. Tu parles de l'écriture, de la trace, sachant que justement le canté au départ c'est uniquement de l'oralité, c'est-à-dire qu'on se transmet les coplas uniquement par l'oral. Il n'y a rien d'écrit au départ dans le flamenco. C'est depuis seulement quelques années qu'il y a ce qu'on appelle les flamencologos qui s'occupent de d'écrire sur le flamenco, mais au départ ce sont des gens totalement analphabètes. Hein. Alors d'un côté on fait référence à José Bergamín, c'est des cadences de l'analphabétisme, qui est un texte important de José Bergamín. Mais tout ça pour dire que voilà, c'est extrêmement important, cette transmission orale. Donc le corps, la bouche, etc. Et puis à côté, le parchemin, la trace qui est laissée. Mais la trace qui est laissée, elle est sur le corps de Rafael Romero. C'est-à-dire ce qu'il chante, il a vécu dans son corps. Donc son corps peut se lire comme quelque chose qui raconte tout ça, qui raconte sa vie, donc qui raconte le flamenco en fait.
Oui, et alors la trace aussi, on la retrouve dans le poème suivant, c'est, on le voit bien, la trace d'un visage, hein, et puis c'est lié aussi à l'expulsion.
Alors oui, le texte suivant, c'est Agujetas. Alors Agujetas, c'est un cantor de Jerez de la Frontera. Alors lui, il est vivant, il est encore vivant. Alors Agujetas, lui, c'est un analphabète pur. Hein. Agujetas, alors nous parlons, ne sait toujours pas lire et écrire. Mais le jour où Agujetas va mourir, comme disait je ne sais plus qui, c'est une bibliothèque qu'on va perdre. Hein, parce que ce sont des gens qui connaissent des milliers de letras. Des milliers de letras. Vous pouvez entendre chanter 10 fois Agujetas, il ne va peut-être pas chanter une seule fois la même lettre. C'est une connaissance encyclopédique de quelque chose qui est de l'ordre de l'oralité. Et moi, ça me fascine, ça. Savoir à ce point autant de belles choses, parce que la lettre, elle peut être très philosophique, très symbolique, mais elle peut être aussi très, 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 très rudimentaire, très prosaïque. Elle peut raconter qu'est-ce qu'a voilà, un petit déjeuner, ou elle peut raconter par le biais de mots très simples la vie d'un forgeron. La copla, pour ceux qui ne savent peut-être pas, c'est comme une espèce de petit haïku, en fait. enfin petit, un haïku, parce qu'un haïku c'est pas très long, donc un haïku. Et en fait, quand le cantor chante, il n'y a pas de lien entre les lettres. C'est-à-dire qu'il va chanter une lettre qui va parler de la relation qu'il peut avoir avec quelqu'un, une relation amoureuse, il peut parler de dépit, d'envie. Et puis dans la lettre qui suit, dans la copla qui suit, dans le haïku qui suit, cette lettre-là va parler du fait que, ben en fait, il est allé dans telle foire pour vendre des cassuelas et des ollas, pour vendre des instruments pour faire la cuisine. Hein, et puis, de nouveau, on va revenir faire quelque chose d'un peu plus philosophique, voilà, comme Fui piedra y perdi mi centro, me ajoraron al mar y al poco tiempo. Lo encontré de nuevo. C'est-à-dire, j'étais pierre et j'ai perdu mon centre. On m'a jeté dans la mer et au bout d'un certain temps, je l'ai retrouvé. J'ai retrouvé mon centre. Alors, cette pierre jetée au milieu de l'océan, ben, c'est ce qui fait qu'il se retrouve, en fait. Voilà, c'est très. Si on y réfléchit, c'est très philosophique. Hein. Et ben, c'est chanté par la même personne qui va ensuite, dans la lettre suivante, raconter que hier soir, et ben, voilà, il s'est bourré la gueule avec les copains et que c'était très bien et qu'il adore la Nice de Cassaya et que c'est génial, quoi. Voilà. Et cette personne-là, et ben, elle est analphabète. Et pourtant, elle connaît des milliers de lettres. Voilà.
C'est ce que dit Lorca. Quand il explique son romancero gitano, il dit que, en fait, ce qu'il a voulu faire, et ce que fait le flamenco, c'est, je cite, fondre le narratif et le lyrique sans que l'un ni l'autre perdent leur qualité. Le narratif et le lyrique. Et ça, je crois que c'est aussi ce que tu fais.
Ben, en tout cas, j'espère. Enfin, hein.
Non, parce que effectivement, il y a toute une partie narrative. Mmh. Tu racontes l'histoire. Oui, il y a des personnages, en fait. Et puis tout d'un coup, paf, ça tombe dans le lyrique, dans la poésie, les images dignes de l'Outre-Amont et choses comme ça. Je dis l'Outre-Amont parce qu'il y a des comparaisons t'aurais pu partir sur des comme parce que c'était la spécialité de l'Outre-Amont, comme l'étoile d'une vitre frappée par un lanceur de pavés. C'était Eltrini derrière ses lunettes en cul de chopine, dans la direction du maestro, comme l'étoile d'une vitre frappée par un lanceur de pavés. Hein.
Alors ça, c'est la terre promise. Je peux lire la terre promise,
ça, c'est
si
la
vous
terre
voulez.
Promise, oui.
Tu es d'accord, Mancio?
Oui, vas-y.
Bon, je lis la terre promise. C'est un des matins baveux où se joint à la nuit encore maquillée la salive du jour proche. Le sang de l'Ebrija marche à côté de moi, met la clé et démarre. J'essaie d'arranquer avec cette voix des aurores une bouleria pa escuchar, en donnant des coups à compas au centre du volant, en écarquillant les yeux pour me souvenir de José Valencia, tout à l'heure, dans le bocal, la bonbonne flamenca rue de République. Pour écraser la cervelle du duende, lui, José, tapait du plat et du poing de sa main gauche sur le mostrador de la peña. Les filles éblouies derrière avaient cessé de glacer les verres en tube où ambrait le whisky. Le Tana avait lancé la sarabande. Ses réfractions de vérité cognaient les murs. El Tana, un gitan de la Vienne, si modeste que son cousin lui en veut, de ne ramener la suie de sa gorge que trop peu, souvent au comptoir, seulement à des heures impossibles, où les payos qui proposent des contrats, du parné, sont morsous ou couchés. À l'autre bout de la pièce, une nouvelle voix s'est cherchée la vie. C'était Eltrini derrière ses lunettes en cul de chopine, dans la direction du maestro, comme l'étoile d'une vitre frappée par un lanceur de pavés. Eltrini a visé juste et fort. José ne pouvait que lui rendre hommage, lui dire la pareille, le défier à son tour. José, autrefois Roselito, aujourd'hui José, de los Valencia de l'Ebrija, irrigué par le jus des raisins de Jerez, celle de son oncle Luis, de Manuel de Paula, de sa mère Ana, de la Rumbilla, des autres. Le chariot des lettres tordues dans le filin de ses lèvres, porté par nos coups de olé, prouvait que le cœur est un muscle. Son chant, c'était un coup de bâton sur la mer rouge, quand il le referma, nous fûmes engloutis. Le moteur ronronne en bas dans le jardin où je me suis garé. Je devrais aller me coucher, je n'ai plus une seule copla prise dans le larynx. Alors quoi? Rien. Je reste à savourer cet instant. Le moment où le primo du Tana m'a pris le bras et susurré, je crois que nous avons aperçu la terre promise.
Voilà. Donc là je vais devoir m'absenter pour aller rejoindre un autre poète. c'est vrai, en plus.
Tout à fait.
Mais tout à l'heure, je tombe par hasard comme ça sur cette phrase. Tu es ce presque équilibre d'estampe de la semeuse d'oiseaux. Donc ouais, là, on n'est plus dans le narratif, on est vraiment dans le lyrique et dans ce qu'on disait tout à l'heure sur l'équilibre et cet équilibre des mots hein, dans les vers. Et ils sont là et puis on ne sait pas comment ils tiennent debout.
Les vers, oui, tu as raison. Des fois, on ne sait pas comment ils tiennent debout.
Les vers, oui. Donc, voilà, donc cet agencement des mots comme ça est particulier. Alors, après, on ne sait pas comment c'est venu là. Hein, si tu as passé 10 heures à écrire ces deux vers ou si c'est venu en 30 secondes. Mais voilà, c'est...
Je mets plus de temps à les écrire qu'à les écluser, hein, les vers, ça c'est sûr. Oui, c'est un texte qui s'appelle « A Carmen Pacheco Rodríguez ». Carmen Pacheco Rodríguez, c'est Carmen Linares, une très grande cantaora vivante, elle. Et voilà, donc c'est ce que tu dis. J'essaie toujours, dans les textes, en tout cas, d'aller entre la réalité, elle est de Linares, hein, comme le dit son apodo, Carmen Linares, où passe le Rio Tinto. Et Linares, c'est les mines, hein. Donc c'est toute une histoire aussi de ce peuple andalou, gitan, condamné très souvent au pénal, condamné à être sédentaire, et puis qu'on a mis aussi dans les mines d'argent ou d'étain et qu'on a forcé à travailler, mais aussi d'autres qu'on n'a pas forcé puisqu'il fallait bien se gagner sa vie. Et en même temps, c'était des gens qui chantaient. Voilà, alors ça fait référence effectivement, si on va un peu loin, à tout ce qui est le blues, les chants de coton, etc. C'est de cet ordre-là aussi, hein, le chant qui permet d'être heureux. Après une journée de travail, hein, d'être heureux ensemble, d'aliviar, de mettre du baume sur toutes ces blessures. Voilà. Et simplement, je voulais dire quelque chose tout à l'heure. Oui, c'est important tout ce tragique, mais qui n'essaie pas de jouer du pathos, en fait. Voilà. Très souvent, les flamencos s'esquivent par rapport à ça. Ils ont une pirouette, sémantique ou une pirouette, une vraie pirouette, hein, un petit coup de patte, comme je dis, un petit baile, une petite danse pour sortir de ça. Et très souvent, les cantaores dansent aussi dans un film de fiesta. Très souvent, le cantaore à la fin se lève et le guitariste prend la guitare et il joue et le cantaore danse, fait quelques petits pas comme ça, et en général c'est très beau, très, très émouvant. Et c'est une pirouette aussi, voilà, c'est une pirouette pour arriver justement à sortir de cette tension-là, un peu fatidique des fois, hein, parce que je le répète, c'est un vrai travail physique. Hein. Ça m'est arrivé de voir des cantaores après une nuit de canté avec les yeux vraiment enfoncés, hein, parce qu'ils ont extrêmement donné d'eux-mêmes, c'est très 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 physique.
Donc là, je dois partir, mais simplement, je dirais que le poème que j'ai préféré dans ce livre, c'est Terremoto. Et bon, donc je ne vais pas le lire, mais je t'invite à le lire.
Donc, en ton hommage,
avant que tu partes. Et notamment, cette coupe-là, il cherchait où le fragment devient la forme sans arriver, mais qui joint la lèpre et le fruit. Ça ouais. me semble. Et c'est,
ça me Alors, semble. Terremoto, c'est le tremblement de terre. Ben oui, mais merci beaucoup Amancio. Merci beaucoup. À bientôt. Oui, on peut l'applaudir, je crois. Bravo. Merci encore. Ben, pour toi Amancio, mais tu n'es pas là. Donc Terremoto, c'est le tremblement, mais c'est aussi une référence à Terremoto de Jerez, un cantaor qui est mort il y a peu de temps, ça fera un an et demi à peu près. Et puis, c'est lui aussi l'héritier d'une grande lignée. C'est très important, la lignée, la reata, la famille, chez les flamencos, chez les gitans surtout, mais chez les flamencos en général. Et cette importance de la famille, de l'héritage, Terremoto le portait en lui, parce que son père a été certainement un des plus grands cantaores que la terre ait jamais donné, qui s'appelait lui-même Terremoto de Jerez, et son fils Terremoto a essayé de porter tout ça. Alors, voilà, Telemoto, je le connaissais un petit peu, j'ai eu la chance de le côtoyer, de parler avec lui. C'était un bonheur d'homme. Et puis voilà, il nous a quittés malheureusement trop tôt, hein, et on ne s'y attendait pas trop. Et donc voilà, c'est un... Parce qu'en même temps que je réfléchis, je cherche où il est ce texte, et je vais vous lire donc Telemoto. Oui, parce que je dis Telemoto au début, mais c'est vrai que le texte s'appelle Tremblement. Telemoto. Telemoto, il avait ce corps fleuve. Il croyait à la brassée debout, surgie de la pesée des rêves, il emportait la secousse fertile. Il cherchait où le fragment devient, la forme sans rivée, mais qui joint la lèpre et le fruit. Du cri de ses os sortaient des sacs de crépuscule, il en riait. Il avait ce corps fleuve, avec son cœur sur la barque au milieu. Telemoto, le tremblement. Voilà, celui-là est court. Amancio étant parti, je suis un peu, c'est un peu délicat de continuer comme ça. Mais moi, je propose que si je peux faire d'autres lectures, mais si vous avez des questions, je suis tout à fait enclin à y répondre. Voilà. Donc j'attends que vous leviez le doigt comme à l'école. Non, si vous avez des questions, je vous invite à les poser. Mais s'il n'y en a pas, je peux lire d'autres textes. Je peux aussi partir, m'évanouir, comme je peux m'esquiver comme font le flamenco, avec une pirouette. Des questions? Pas de questions. Bon, s'il n'y a pas de questions, bonsoir Elodie. Alors c'est un texte qui s'appelle La Paquera, parce que c'est aussi sur une cantaora qui est décédée, et qui s'appelait La Paquera, elle aussi de Jerez de la Frontera. Jerez de la Frontera, en fait, il y a un triangle très important qui est, excusez-moi, Jerez, ce qu'on appelle Los Puertos, c'est-à-dire Cádiz, Puerto Santa Maria, tout ça, et puis Séville. Et dans Séville, plus particulièrement le quartier de Triana, qui est un quartier de Séville, de l'autre côté du grand fleuve, du Guadalquivir, du grand fleuve, le Guadalquivir. Et ça forme un triangle. Voilà. Alors, si on rentre un peu dans les détails, ce triangle n'est pas là par hasard, puisque effectivement, les tratantes ganados, qui s'occupaient du bétail et qui faisaient une espèce de transhumance, l'histoire du champ, elle suit en fait ces transhumances-là. Elle suit aussi les travailleurs saisonniers. Là. Il y a tout quelque chose par rapport à l'histoire qui est assez important. Et donc la Paquera était d'un quartier de Jerez. Et voilà ce que j'ai écrit. Juste avant la Feria del Caballo, la Paquera est morte. Montée brutale de la transe flamenca au Walala. Les seigneurs du soupir gitan sont là. Paquera s'avance, elle commence, elle tremble por aieos, elle accroche l'espace, le ravode tonne et susurre, passe le collet et pardonne. Lionne empesée, elle surgit de la corde d'un arc, la concentration d'une flèche sous son ventre libre. Sa seule laisse est son diaphragme qu'elle secoue pour se quitter la foudre qui la sauve et la tue. Sur la substance de son canté, tous les azimuts s'entrechoquent dans un chaudron roussi à la reata lèche-flamme du barrio de San Miguel. Paquera, 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 scandent les guerriers des escarbilles plein les phalanges. Francisco Garrida Méndez, nuestra. Voilà, c'est pour signifier que il y a toujours une. Très souvent, les flamencos font beaucoup d'hommages. Dès qu'un flamenco décède, ils se réunissent, ils se souviennent, ils font. Voilà, ça n'a rien d'une veillée mortuaire, au contraire, surgissent certainement les chants les plus festifs à ce moment-là. Mais il arrive toujours aussi à un moment donné où le Sigueria, qui est certainement le chant, le canté le plus tragique qui existe dans le flamenco, ben lui aussi va prendre toute sa place et toute son odeur, je dirais, toute sa saveur, parce que on pense à quelqu'un, on pense aux antepasados, on les convoque, mais ce n'est jamais triste. Voilà. Alors là aussi, il y a des références, hein, la fête des morts, le Mexique, etc. Il y a des choses comme ça qui sont de l'ordre des peuples de langue espagnole, des peuples. Voilà. Et chez les flamencos, c'est très présent, ça. Cette notion du souvenir, cette notion de l'hommage en permanence, de toujours se souvenir de ceux qui nous ont précédés. Et voilà. Alors effectivement, là aussi, si on ne connaît pas, si on n'a pas les codes, ce n'est pas toujours évident, quoi. Hein, parce que... Mais ce n'est pas grave non plus. On peut très bien sentir le frisson, même si on ne possède pas tout ça. Ce n'est pas du tout forcément lié. Hein, ce n'est pas de cause à effet. Mais pour eux, c'est très, très important. C'est extrêmement puissant. Je pourrais lire sur la transmission. Alors, celui-là est un peu long. Ça s'appelle Père et Fils. José de la Tomasa, le père, pièce des plomo, le fils. Nous sommes du même sang, a dit le père. Celui qui porte à ma voix la réalité et l'infini, qui sait serrer les âmes. Je suis le séquoia poussé au milieu des allées romaines de Syste. De mes branches, les rubis pendus pleurent et se souviennent. Ce sang, il m'a pesé. Son flot balayé la bataille des recels limoneux pour engendrer un lever du jour, a dit le fils. Ce soleil, c'est une oreille tranchée et l'ami de mon souffle agité, le ciel du pain nouveau qui la recueille. Il m'a grandi, sa crue voyage, a dit le père, jusqu'à toi. Sur la rive, son baiser fait partie de nos anneaux sacrés. Dans mes mains, approche, tu vas trouver les agrafes à mettre dans ta gorge. Garde-toi de ne pas les avaler. Oui, a dit le fils. Pourquoi, a dit le père. Pourquoi, regarde, de Triana se détachent des langes où tes côtes d'enfant furent roulées pour que tu aies ta place entre les ailes du chapeau des torres juste après moi. Moi, a dit le père, qui te gardait quand tes cris élargissaient ma nuit et devenaient l'accouplement des alphabets. Je viens avec ce sédiment dans un astre plié, a dit le fils. Pourtant tu n'exiges pas un couteau mais son sang pour que frottent et s'envolent des bousculades de galets dans ma bouche sans muscles. Cherche, a dit le père, l'inverse des mélancolies. Taille dans la peau des forêts un silex transparent qui incise les amarres entre toi et les courses sous le gel à vif de l'ardoise de ta glose. Remontera en flux l'errance que tu cherches au milieu des herbes où boire un peu te permet le chemin. Ta vigueur bougera ces flots d'obscurité, leur écume en parcelle ne les affole pas parce qu'elles sont vraies. Je sais. A dit le fils, mon père, quitte tes doigts de ces bagues et donne-moi la force d'une morsure que je goûte à ce sang qui est le mien. Oui, a dit le père, mort, car tu es la peur que je lis dans ce mouchoir mouillé. Mort sans douceur, car ton chant doit trouver sa lisière carnivore et serre avec tes dents pour que je monte une offrande. Nos humiliations sans rancœur et transfigurent ma bouche. Nos guitares voient si loin que les accords de Eugenio, les codas d'Antonio paraissent les suées à l'encolure des chevaux gravés dans le pommeau des cannes que brandissaient les anciens. Nos pas sont ceux de moineaux amoureux à la peau de cire qui s'allume d'un coup de botte qui siffle. Ils goûtent dans le baume des écorchures. « Tu vois, nous sommes du même sang, » a répété le père. « Je l'écoute battre à présent, » a dit le fils. Voilà, toujours pas de questions. Ben allez-y, réagissez, je vous vois dubitatif. Je peux vous poser une question, moi. Qui parmi vous est venu ce soir en connaissance de cause, pas par rapport au livre, mais par rapport au flamenco. Qui c'est qui? Personne. Un peu, monsieur. Oui. Quand on dit un peu, c'est qu'en général, les flamencos sont modestes. En général, c'est que un peu veut dire plus que peu. Enfin, un peu, ça veut dire beaucoup. Oui. Un peu. Mais parce que vous en avez écouté, parce que ça vous intéresse, parce que vous en avez vécu aussi, ça. D'accord. Alors, pour ce qui est de la... Oui. Les racines historiques, alors vous avez le temps. Ben, si les racines, elles sont multiples. On va dire qu'il y a un substrat historique. Hein. L'Andalousie, c'est une terre où ont cohabité effectivement beaucoup de civilisations. Voilà, hein, depuis ce qu'on appelle le Tartessos, hein, qui était du côté de Sanlúcar de Barrameda, et puis ensuite voilà les Phéniciens, les Grecs, et puis ensuite bien entendu les Romains, et puis 700 ans de domination arabe, on va dire, les Visigoths, les Chrétiens, la Reconquête, je vais en oublier certainement, et puis de ce les Juifs, hein, très important, le champ des synagogues. Et puis cette terre où on a dit, hein, alors évidemment c'est un peu enjolivé la réalité historique de dire qu'il y a eu le convivir entre les trois religions du livre, hein, juifs, musulmans et chrétiens, qui a donné lieu à beaucoup d'affrontements, hein, les uns s'alliant avec les autres, contre les uns et contre les autres. Mais voilà, 1492, Boabdil s'en va, sa mère lui dit... Pleure comme une femme ce que tu n'as pas su garder comme un homme. Alors ça paraît peut-être un peu sexiste aujourd'hui, mais c'est vrai, c'est au-dessus de Grenade, hein, le Suspiro del Moro, hein, d'où elle aurait dit cette fameuse sentence, où il regarde la dernière Taïfa qui tombe et entre dans Grenade les rois catholiques. Donc derrière, c'est des années de persécution de ceux qu'on va convertir ou qui se convertissent un peu de force de façon obligée, les Moriscos, et puis là arrivent les Gitans, ils vont se frotter, se croiser pendant assez peu de temps, hein. Les Gitans arrivent au 15e siècle. Les Gitans, c'est un peuple qui vient d'Inde, hein, qui a traversé toute l'Europe, et ce qu'on a constaté, c'est que ce sont de véritables buvards, c'est-à-dire partout ils se sont arrêtés, ils sont des musiciens, ils se sont appropriés la musique des endroits où ils sont passés, les endroits où ils passent, et là, il a recréé, véritable travail de recréation. Alors il y a des choses du folklore balkanique par exemple, hein, les tarafs par exemple, c'est des choses folkloriques au départ, et puis c'est une véritable recréation de ce folklore-là. Plus près de nous, bah, c'est le Django et le jazz, hein, le jazz manouche, hein, c'est devenu un genre à part entière, complètement. Et là, donc, ils arrivent à ce substrat folklorique, et puis en Andalousie, avec le fandango notamment, qui sont des rythmes très simples, les chants qu'on chante donc, lors des faenas, lors des travaux des champs, etc. Et eux, ils s'approprient tout ça. Et là aussi, ils le transforment, ils le mettent à leur sauce, on va dire. Ils le recréent, ils le flamenquisent. Alors le mot n'existe pas tout à fait encore, mais ça va être très important, en sachant quand même que ça va se créer beaucoup dans l'intimité, dans les arrière-cours, lors des fêtes, des baptêmes, le soir à la veillée. C'est un chant sacré, en fait, mais qui naît à l'abri des autels, on va dire. Et puis, ce qui est très important, c'est qu'il récupère aussi une mémoire, une oralité, à travers ce qu'on appelait les romances, les corridos. En fait, c'est un petit peu ces poèmes épiques qui étaient chantés du temps du Moyen-Âge pour raconter la geste du Cid, de Bernardo el Carpio, tout ça, d'Alfonso el Quinto. Et eux, ils les récupèrent, ces poèmes lyriques, ces poèmes épiques, hein, oraux. Ils les récupèrent et ils les chantent. Et en fait, aujourd'hui, on a des traces de ces romances très, très anciens grâce aux cantés gitans qui existent encore, hein, qui ont été véhiculés par les gitans, qui ont transmis ça uniquement oralement. Donc c'est un véritable trésor archéologique, hein, qu'ils ont encore dans leur mémoire, hein, dans leur sang. Et puis, en fait, ils vivent dans les mêmes endroits où vit le peuple andalou, le plus pauvre. Donc, ils se mélangent. Et ces Andalous, qui ne sont pas gitans, entendent ces chants-là et ils trouvent que c'est absolument... Enfin, c'est saisissant, c'est le frisson. Donc, ils s'en accaparent. Il y a quelqu'un dont parlait tout à l'heure Amancio, dont parle Lorca, qui est Silverio Franconetti, qui a beaucoup écouté, beaucoup apprendre, et qui est le premier à mettre ça en scène, sur scène, s'ouvre les premiers cafés cantantes. Silverio Franconetti ouvre un café cantante. Donc là, on est au 19e siècle. Et il le met en scène, en fait, le flamenco. Alors, et bien évidemment, les cantaores gitans, voyant ça, et puis il les fait venir sur scène, il leur paie un écho, il leur donne un salaire pour chanter. On n'avait jamais vu ça. On commence à vivre un peu de notre art. Voilà. Et en fait, le flamenco se développe comme ça au niveau des masses, on va dire, c'est-à-dire par ce biais des cafés cantantes. Puis viendront d'autres époques, hein, beaucoup plus contemporaines, au début du XXe et tout le XXe siècle, avec des époques plus ou moins de récupération du chant archaïque, des époques au contraire vont être mis en avant plutôt les voix mélismatiques, la opéra flamenca, on va théâtraliser tout ça, on va jouer sur des grandes scènes, dans des opéras, dans des plazas de toros, devant beaucoup de gens, etc. On retrouve toujours cette histoire de tension entre l'intime et le spectaculaire, qui existe encore aujourd'hui. Et puis, voilà, après, il y a un fait historique incontestable, c'est l'arrivée du franquisme après la guerre civile. Et donc, le flamenco est aussi une vitrine folklorique, une vitrine touristique, hein, faut pas le nier, mais perdure toujours quand même ce canté de raïs, de racine, puisque vous parliez de racine. Et il y a quelqu'un de très important aussi dans l'histoire du flamenco, qui est Antonio Mairena, qui lui pose les bases d'un canté qui reviendrait de nouveau aux origines, aux racines. Et de là naissent ce qu'on appelait les festivals. De là naissent aussi les peñas flamencas, qui vont, elles, cultiver, entre les festivals et les peñas, ce flamenco beaucoup plus archaïque, beaucoup plus profond, beaucoup plus sérieux, entre guillemets. Voilà. Et puis jusqu'à nous, figure très très importante, c'est Camarón de la Isla, un jeune gitan de la Isla de San Fernando, jeune gitan blond, chétif, mais avec une voix qu'on ne peut pas décrire si on ne l'a pas entendu chanter. J'ai eu la chance de l'entendre, c'était quelqu'un... Alors sur disque, on éprouve quelque chose quand on l'écoute, mais sur scène, c'était... Alors là aussi, avec un charisme, l'utilisation du corps extraordinaire... Et Camarón de la Isla, eh bien, lui, c'est un peu le chaînon entre le chaînon de la modernité. C'est-à-dire que lui, il va commencer à chanter aussi de façon très classique. Il va se faire accompagner par Paco de Lucía, qui lui aussi va révolutionner la guitare, hein, puisqu'il va aller se frotter à des grandes pointures du jazz, de la musique autre que flamenca. Et puis Camarón va enregistrer un disque qui s'appelle La Leyenda del Tiempo. Et dans La Leyenda del Tiempo, il y a tout ce qui est le flamenco contemporain aujourd'hui, c'est-à-dire l'apport d'autres musiques, comme la salsa, comme le rock, donc l'apport aussi d'instruments absolument inédits à l'époque, comme la batterie, par exemple, ou la guitare électrique, avec des groupes comme Pata Negra, tout ça. Et voilà, et aujourd'hui, le flamenco vient d'être déclaré l'an dernier patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. C'est une date importante. Moi, je n'étais pas sûr que ce soit ni un bienfait, ni un malheur pour le flamenco. C'est bien, c'est une reconnaissance. Bon, alors après, aujourd'hui, on dit aussi que beaucoup du flamenco dont on parle là, le flamenco qui est là-dedans, moi qui me touche le plus, aurait tendance un peu à s'étioler, à disparaître, mais je crois les cendres assez vives pour pouvoir toujours... c'est pas un arignifugé, quoi. Ça peut prendre feu à tout moment. Et on a toujours aussi cette ambivalence entre la notion et l'envie du spectaculaire, d'un flamenco qui va en jeter, qui va être plein d'enthousiasme et de donner à voir et de se produire sur les scènes mondiales, qui va aller se frotter à la danse contemporaine avec des gens comme Israel Galván, Andrés Marín, ou Eva La Hierbabuena, ou Rocío Molina. Et en même temps, ces mêmes gens-là ont toujours besoin de revenir dans leur terre, chez eux, dans leur famille, pour ressentir ce flamenco archaïque, pour se ressourcer. Voilà. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. C'est vrai pour énormément d'autres musiques. Hein. Ce n'est pas que dans le flamenco. Mais disons que moi, c'est celle que je pratique et que je connais le mieux. Voilà. Mais bon. Et puis je termine avec une lecture et puis ça sera parfait pour ton enregistrement. C'est bon. Ouais, je vais lire Caballero. Mon petit, ce matin, vends-moi de ton nougat au pignon. un peu trempé dans le chrome de ce sanglot trouvé, Calle Cava de los Civiles, sur un coin de bar, il me fera du bien. Dans son papier argent, pose-le sur ma table. Chante, canta. Chante, chante ce prégon, en souvenir des lèvres de Louis. Je sais que tu aimais l'écouter, simplement souffler, sous la crème fouettée de ses cheveux, une lettre d'Asnal Coyar. Il la sentait venir, il voulait mordre dans ce fruit que lui tendait Juan, su abuelo, el lero. Quiero vivir en la sierra, aunque allí no gane dinero. Tengo mis buenos amigos, mi escopeta y cuatro perros y una serrana conmigo. À la fin, au remate, si on scrutait sa bouche, on voyait tourner comme à chaque fois qu'il chantait les muqueuses de l'ange, la douille chaude qui avait tué son père. Offre-moi ce nougat, chavo, et je te dirai pourquoi Luis Caballero Polo faisait teinter sa petite cuillère au bord de la soucoupe à café. Merci. Alors écoute. Il aimait l'ironie de cet écho parce qu'il savait qu'un chant peut sauver la vie et que parfois on meurt en silence. Merci.